I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Donc vous ne le voyez pas, mais en tout cas je suis très 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 content. Pourquoi ? Pourquoi Be Rusty ? Eh bien parce que nous avons le poster de l'UFC 270 qui est enfin fièrement affiché au studio. Peut-être que vous aurez l'occasion de le voir, en tout cas ça fait très très plaisir. Bien, revenons à nos moutons. UFC 276, les chiffres du pay-per-view sont tombés et ça confirme une certaine tendance pour l'UFC, en tout cas que c'est une année peut-être de transition pour l'organisation qui peut-être en tout cas place ses pions pour de futurs gros chocs. En tout cas, ça n'impressionne pas vraiment. On va voir ça ensemble. Be Rusty, générique.
Soit.
Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
Donc Be Rusty qui est de retour de Suède.
On est de retour de Suède. Donc on a vu, oui, on a
accompagné Volkan.
On vous réserve quelques petites surprises avec Volkan. On vous réserve quelques petites surprises tout court. Et puis on a croisé... que du beau monde là-bas.
Wow.
Donc voilà, merci à Fred, le manager de Volkan, d'avoir facilité tout ça et d'avoir réussi à ce que tout ça soit fait. Et franchement, c'était génial. Et je pense que le résultat vous plaira. Mais en tout cas, voilà, c'était super.
Formidable. Revenons à nos moutons migrés, donc UFC 276, qui a fait, roulement de tambour ou pas, 400 000 en pay-per-view. On se souvient qu'Israël Adesanya est impressionné pendant le Covid, puisque c'est lui qui avait battu les records, en tout cas à l'époque, avec 700 000 pay-per-view pour Paulo Costa contre Israël Adesanya, 800 000 pay-per-view pour Israël Adesanya contre Jan Błachowicz, et là, retour à la réalité avec 400 000 seulement pay-per-view vendus.
Ben ouais, et surtout ce dont on discutait, c'est que au-delà du fait que, bon bah ben voilà, on l'a dit et redit, il y a eu un avant-après l'ère ESPN, parce que quand il y a eu plus de barrières à l'entrée, donc il faut que tu aies le ESPN Plus qui est un abonnement mensuel, et en plus que de l'abonnement mensuel que tu payes les pay-per-view, ça a refroidi pas mal d'ardeur, et donc, ben, ce qui était par exemple 500 000 pay-per-view avant ESPN Plus et tout ça, c'était vraiment bien. Mais voilà,
normal.
Normal quoi. Et là, 500 000 dollars de pay-per-view après l'ère ESPN Plus, c'est vraiment.
500 000 pay-per-view vendus.
Oui, j'ai dit quoi ?
500 000 dollars de pay-per-view.
Ah oui, 500 000 de pay-per-view vendus, c'est vraiment, vraiment très, très bon quoi. Donc 400 000, c'est donc. Bah, c'est bon. c'est, tu vois, si on fait l'échelle, non, mais c'est vrai, tu vois. Et ce qui serait moyen aujourd'hui à l'ère d'ESPN Plus, c'est quoi ? C'est 250 000, 300 000 ? Là, ce serait moyen.
Ouais, et encore, parce que quand Ozzy a la barrière d'entrée, vous devez être abonné à ESPN. Et donc, en gros, c'est ce que je regardais là. Déjà, aujourd'hui, le prix du pay-per-view a augmenté, puisqu'on est à 75$ maintenant,
ouais, c'est
pour chaque pay-per-view. Et en plus, donc, du 75, vous êtes obligé d'avoir votre abonnement pour l'année à ESPN+. Et donc, en gros, le pack que propose ESPN aujourd'hui, c'est 100$ pour avoir un pay-per-view plus l'abonnement à l'année. Voilà, mais après... À chaque pay-per-view, vous devez ajouter les 75$. Et vous remarquerez aussi que depuis que l'UFC a signé chez ESPN, tous les ans, le pay-per-view augmente de 5$. Là, je pense qu'on a atteint... On sait pas. Mais en boxe anglaise, en tout cas, on est autour des 80. Donc peut-être que ça a augmenté de 5$ l'année prochaine et stabilisé. Mais en tout cas, ce que je voyais, moi, c'est quand il y a eu les résultats qui étaient de 400 000, la plupart des gens disaient « Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'UFC a peut-être atteint, en gros, un chiffre en termes de, bah, du prix du pay-per-view qui est peut-être un peu trop haut, en fait. Et qu'en gros, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre de mettre les 75$ en plus de l'abonnement ESPN. Parce que ça fait, enfin, je veux dire, ça fait que votre budget minimum UFC tous les mois, si vous achetez les pay-per-view, c'est 80$.
Ça fait énorme. Bah ouais, c'est très difficile de faire des comparaisons parce que c'est un peu hasardeux, mais bah, quand tu compares aux plateformes de streaming où t'as des catalogues illimités et ça coûte quoi, c'est 10 $, un truc comme ça, bah c'est énorme. Alors du coup, je sais pas comment ça se passe effectivement au niveau de la boxe anglaise, hein, ce serait intéressant d'avoir un comparatif. Ils en ont un par mois à peu près de gros pay-per-view intéressants.
Ouais, et sachant qu'en plus, bah, par exemple, Canelo contre Bivol avait beaucoup déçu. Parce que donc c'était sur DAZN, et c'était donc DAZN qui s'est relancé en pay-per-view, et ils avaient fait entre 600 000 et 700 000, et c'était très décevant.
C'est décevant ?
Ouais.
Parce qu'ils ont moins de barrières à l'entrée.
Pour Canelo. Pour Canelo, c'est très décevant.
C'était combien que tu payais ? C'était 80 $ donc ?
C'était 75.
Et c'est décevant ?
Ouais. Bah pour Canelo Alvarez, oui, c'est décevant.
Il a combien normalement ?
Bah plus d'un million quoi.
Ah ouais, à chaque pay-per-view ?
Ouais.
Effectivement. Mais oui. Par contre, ok, Star Power, d'accord, je savais pas qu'ils faisaient ces chiffres-là. Mais en tout cas, une tangente qui est aussi intéressante, parce que donc, il y a deux choses. Le premier, c'est qu'effectivement, bon bah, Adesanya, que ce soit parce que les gens commencent un petit peu à se rendre compte que ça n'est plus aussi spectaculaire que ça avait pu l'être avant. Donc les gens, entre guillemets, savent que bon bah Adesanya, maintenant, c'est plus quelqu'un qui gère ses combats. Donc on est un peu plus rentré du côté du GSP style. Mais après, Georges St-Pierre, bah, il avait le gros avantage qu'il était canadien et que c'était sur la même time zone que les États-Unis. Et donc...
Donc c'était chez lui aussi.
C'était chez lui, c'est la même time zone que les États-Unis, c'est un mec dont tout son pays est derrière lui, et c'est un gros pays qui est très amateur de ce genre de contenu. Nouvelle-Zélande, je pense pas qu'il soit super amateur encore de ce genre de contenu, donc on peut pas vraiment dire qu'il a un pays qu'il soutient en termes de pay-per-view, je pense. Nigeria, je pense pas non plus. Donc, Adesanya, c'est peut-être une star sous d'autres métriques, mais en tout cas, en pay-per-view, il perd un peu de vitesse, j'ai l'impression.
Ouais.
Et le deuxième truc qui est très intéressant, c'est Charles Oliveira.
Moi, je voulais juste ajouter pour Adesanya, ce qui ne lui rend pas service non plus, il n'y a pas eu les chiffres de l'UFC 271 qui sont sortis, donc Adesanya Whittaker, parce que bon, la Nouvelle-Zélande, mine de rien, c'est pas un gros pays en pay-per-view, mais ils ont eu des grosses stars aussi. En gros, moi, pour le coup, là où je me dis peut-être que pour Adesanya, c'est ce qui fait que là, il y a des performances assez pauvres, bah, c'est que c'était contre Cannonier. Et que Charles Oliveira, enfin Adesanya, il a prouvé contre Blachowicz, puisque c'était pour le statut de Chem-Chem, contre Paulo Costa, il y avait beaucoup de tensions. Là, contre Cannonier, tout le monde disait, bon, bah, clairement, c'est perdu d'avance.
Ouais, c'est sûr, mais il avait le côté, le trash talk qui était relativement là. C'est vrai qu'il n'a pas aidé beaucoup Cannonier, mais il était en mode, bon, bah, maintenant, je suis dans une nouvelle dynamique, je veux combattre souvent et je veux éclater les mecs. Enfin, tu vois, ça aurait pu se... Puis même, tu sais, Conor McGregor, il pourrait combattre n'importe qui, ça fera toujours un million de pay-per-view. Moi, je pensais que... Ben, quand on parle superstar, pour moi, c'était un peu ça. C'était dans le sens, il se suffit à lui-même pour vraiment faire des énormes performances. Du coup, visiblement, non. Et c'est ça que je trouve intéressant. Mais donc, ben, à moins que tu vois que t'aies d'autres trucs, tu vois, sur Insania, mais moi, du coup, moi, ce qui je trouve vachement intéressant, c'est aussi que... Ben, Oliveira, là, il est en train de vraiment se placer. Parce que pour le coup, lui, ça a fait crescendo, ses pay-per-view. Je crois que donc l'UFC 262, il me semble, c'était contre Chandler et ça a fait 300 000. C'était lui le main event. Il faudra voir quels étaient les autres combats de la carte.
Il y avait Tony Ferguson contre Benil Dariush. C'était l'autre gros choc.
Voilà. Et je sais pas s'il vend beaucoup de pay-per-view, Tony, même si on l'aime tous.
Je pense quand même.
Un petit peu, tu penses ?
À mon avis. Pourquoi ? Pour suivre Big Rusty.
Moi, je vais poursuivre sur les stats de
Ouais,
Oliveira.
C'est pour ça. Ouais. Mais tu vas voir, parce que c'est lié aussi à Tony Ferguson.
D'accord, parce que donc sur l'UFC 269...
Ouais, contre Dustin Poirier.
Contre Dustin Poirier, qui a fait un peu plus de 500 000 de pay-per-view, qui est donc un très bon score pour Oliveira. Il y avait donc qui ?
Il y avait Dustin Poirier contre Charles Oliveira.
Et après ?
Et pas Tony Ferguson.
Bon, ben voilà. Et là, donc...
Mais c'était un très très gros score, parce que même en termes de billetterie aussi, on avait été hyper impressionnés, ça rentrait dans le top 10 all-time de l'UFC. L'événement Dustin Poirier contre Charles Oliveira.
Top 10 all-time ?
All-time. Ouais. Ouais, non, c'était hardcore.
De pay-per-view ?
Non, de billetterie.
Ah oui, ok. Ah ouais, d'accord, pardon. Et donc son dernier en date contre Gaethje, je sais plus quel était, je crois que c'était son 74, ouais. Et il a fait 480 000, il me semble.
Oui, donc, et il y avait Tony Ferguson contre Michael Chandler.
Ok, c'est ça. Donc, bah, ce qui est intéressant, c'est que forcément, c'est peut-être lié à Tony Ferguson aussi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a visiblement un effet Charles Oliveira. Et donc, ça fait plaisir pour lui, déjà, parce que bon, bah, il touche des points de pay-per-view, donc c'est très bon pour lui, pour sa santé financière.
Quand il a la ceinture.
Ah oh, putain. Non, j'espère quand même qu'ils vont pas faire ça, tu vois.
On ne sait pas.
Mais on n'en sait rien. Donc quand on dit ce qu'on espère qu'ils vont pas faire ça, c'est ne pas laisser, comme il n'a plus la ceinture, ne pas laisser Oliveira toucher les points de pay-per-view, mais ça me semble un peu trop gros quand même. Mais voilà, en tout cas, ben... C'est parce qu'il est extrêmement spectaculaire et que les gens le savent, et ce qui est une perf, parce que tu vois, on dit très souvent qu'il faut savoir parler anglais pour vendre et pour machin, bah c'est l'exception qui confirme la règle, j'ai l'impression, Charles Oliveira, parce qu'il ne parle pas anglais. Après, il a tellement une attitude que même en portugais, en brésilien, ça passe, tu vois. Enfin, quand il fait « The champion has a name and it's Charles Oliveira », c'est quand même une énorme punchline, et même quand ça doit être traduit en portugais, ben, ça claque quand même un peu, mais ce sont surtout ses performances qui vendent à Charles Oliveira. Parce que, bon, bah, par exemple, vers la fin de sa carrière, je ne sais plus s'il vendait beaucoup Anderson Silva, mais je crois que dans son prime, il vendait pas mal, parce que je sais que les chiffres en pay-per-view avec Chelsonen et Weidman, c'était des très bons scores. Donc, et il parlait pas beaucoup anglais, un petit peu, mais pas beaucoup. José Aldo, qui n'était pas une grosse star en pay-per-view, ne parlait pas anglais. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment pour faire une espèce de petit tour d'horizon du paysage pay-per-view en fonction de différentes métriques. Et donc, bah, Charles Oliveira, superstar, quoi, et qui est, j'ai l'impression, en train de supplanter un peu Adesanya. Après, j'ai envie de dire, voilà, le jour où Adesanya réaffrontera un gros nom, je pense que ça réexplose, quoi.
C'est pour ça aussi, et c'est pour ça que cette année qui est extrêmement décevante de la part de... Oh, Big Rusty. C'est extrêmement décevante de la part de l'UFC. Pour moi, c'est...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je pense aussi que c'est une année donc de transition. Ils placent un peu tout leur truc pour la fin d'année. Parce que la fin d'année peut être monstrueuse entre le retour de Conor. Et je pense pas qu'il aura le title shot forcément.
Mais il a dit qu'il revenait plus en 2023, non ?
Bah c'est décembre, soit décembre 2022, soit début d'année 2023. Okay. Ça dépendra. Je pense que ça dépendra aussi financièrement un peu si l'UFC se dit est-ce qu'on fait un push pour la fin de l'année,
ouais,
pour
est-ce que les chiffres soient bons.
Et donc il y a ça qui peut être donc le retour de Conor McGregor. Charles Oliveira contre Islam Makhachev qui à mon avis sera intéressant aussi pour l'UFC. Adesanya contre Pereira qui je pense là aussi va faire pas mal de bruit. Ah puis ensuite ça dépend aussi de ce qui se passe pour Francis, il peut revenir à la fin de l'année, mais Francis contre John Jones ou enfin ouais surtout contre John Jones, ça peut être un truc de malade aussi. Donc il y a 4 combats sur le papier, donc 4 événements pour l'UFC.
Attends, quand tu dis Francis contre John Jones de toute façon lui il affronte Miocic.
Bah ça dépend parce que là on y a toujours pas d'infos parce qu'il est censé revenir en septembre. On ne sait toujours pas, il y a juste Dana White qui a dit que ça y est, là c'était clair, il était parvenu à un accord avec John Jones, mais on ne sait pas si ça va être contre Stipe Miocic, si ça va être contre Francis. Même Dana White a dit bah, on laisse un peu les trucs ouverts. Mais en tout cas, s'il y a John Jones, Francis Ngannou, je pense que ça marche aussi.
Oui, oui, oui.
Donc on est, je pense aussi que c'est que l'UFC, bah, évidemment, savent beaucoup plus de choses que nous, et qu'ils sont en mode on a débuté cette année-là pour placer tous nos trucs afin que bah, novembre, Madison Square Garden, décembre, historiquement, les cartes sont quand même bien bien chargées pour tout ça. Quoi. Et puis, on en avait parlé même avant le combat, le fait que Pereira soit sur la même carte qu'Adesanya,
bien sûr.
Évidemment, c'était pas anodin. Donc, je pense aussi qu'ils sont dans une stratégie comme ça. Et souvenez-vous, c'était en 2016, quand l'UFC avait battu tous ses records avec Conor McGregor en termes de pay-per-view, bah, c'était un peu le yo-yo mine de rien parce qu'on passait de Robbie Lawler contre Tyron Woodley à Conor McGregor contre Nate Diaz 2. Et quand vous regardez les performances, c'était 200 000 pour Tyron Woodley, 1,6 million pour Conor McGregor contre Nate Diaz. Et je pense que là, ils sont aussi dans une stratégie similaire où ils se disent, bon, faut investir sur les mecs, parce qu'on sait que de toute façon, les gars ne deviennent pas des stars du jour au lendemain. Mais en même temps, on sait qu'en sacrifiant ces événements-là, ça fait qu'il y a des gens qui commencent à découvrir les gars et que petit à petit, ça commence à arriver, parce qu'on n'en a pas parlé non plus. Mais il y a un mec où c'est très intéressant pour la suite, c'est Khamzat.
Ouais.
Et là, il n'a pas de date de retour non plus. Mais peu importe ce qu'il y aura, je pense que ça peut être très très intéressant pour l'UFC aussi.
Ouais.
Donc, je pense que là, c'est... Enfin, et c'est le dernier point qui est aussi très très important, c'est que depuis que l'UFC a été racheté par WMEIMG, il y a cette importance pour eux d'être très très rentable. Donc je pense aussi que là, ils sont vraiment dans un truc où on va y aller à fond d'ici quelques... Enfin, pas qu'ils n'ont pas le choix, mais comme maintenant, en plus, l'UFC est coté en bourse, t'es obligé d'avoir des résultats. Donc, ils vont être obligés, à un moment donné, d'avoir l'événement banger. Et c'est pour ça que je le dis aussi, ne soyez pas surpris si ils précipitent un peu un Charles Oliveira Conor McGregor en mode, clairement, cette année, ça n'a pas été au niveau en termes de résultats. Faut qu'on sorte le truc de malade. Et voilà, parce que l'année dernière, ils ont quand même eu deux combats de Conor McGregor. 1,6 million, 1,8 million. Mm-hmm. Ce qui, c'est, enfin, oui, c'est, pour eux, c'est comme s'il y avait eu 6 mois de plus dans l'année. Quoi.
Ouais, non, c'est clair. C'est 13e, 14e, 15e mois.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est vrai.
Donc c'est pour ça. Ça m'embêterait un peu. Ça m'embêterait un peu parce que surtout, Cross l'a dit et a raison, Conor McGregor, il peut affronter n'importe qui. Ça va être un gros succès pour l'UFC. Donc plutôt que d'avoir, mais ils l'ont montré quand même pas mal de fois, à savoir... voir, on va dire, un succès un petit peu court-termiste en termes de pay-per-view, plutôt que de construire le truc. Moi, je préférais qu'ils se disent, bon, bah, Conor, on lui fait deux combats, un premier qui est tranquille pour le retour, et ensuite Charles Oliveira. Et c'est aussi très probable qu'ils se disent, bon, bah, allez, on met all-in pour taper les 2 millions de pay-per-view à la fin de l'année.
Ouais, non, c'est clair.
Affaire,
oui, oui. Parce qu'effectivement, Makhachev Oliveira n'est toujours pas signé, hein, je crois.
Non. Non. Et Charles Oliveira passe son temps, qui a dit d'ailleurs, j'étais très surpris en gros, et il a dit qu'il. Son choix était Conor McGregor, mais si l'UFC voulait le faire affronter Islam Makhachev, il faudrait le payer très très cher.
Il a tellement raison.
Ouais, mais mieux. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Par contre, le truc que j'aime bien, c'est le fait qu'ils disent j'ai envie d'avoir Conor au Brésil. Et franchement, ce serait la folie. Mais je pense, et là non plus malheureusement, parce que en gros, c'est pour ça qu'aussi la plupart des gros combats sont à Las Vegas, c'est parce qu'il y a l'argent des paris, il y a l'argent des jeux, enfin, il y a tout ce qui est autour de l'événement qui ne peut se faire quasiment qu'à Las Vegas. C'est pour ça que les gros chocs, malheureusement, parce qu'avec Rust, on fait campagne depuis de nombreuses années pour un retour de Conor McGregor en Irlande, et c'est la raison pour laquelle l'UFC fait la plupart de ses gros événements à Las Vegas. Et quand les gros combats ne sont pas à Las Vegas, c'est parce que le pays hôte paye une énorme somme à l'UFC, ce qui fait qu'on a eu par exemple la Fight Island, ou même là, c'était pas un gros event, mais l'UFC 275 à Singapour, c'est parce que Singapour a payé pour accueillir l'événement. Voilà.
Et d'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer un peu comment c'est possible? Enfin, tu sais, on dit qu'il faut que ce soit à Vegas pour les paris, des trucs comme ça, parce que c'est là où est tout le bif pour l'UFC, et pour surtout le Nevada et tout ça. Mais si c'est sur le même fuseau horaire, qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait tout autant de paris?
Moi, je pense que c'est comme en gros ce qui se passe quand il y a... Canelo contre Gennady Golovkin. En gros, l'aéroport... Non, c'était McGregor contre Mayweather. L'aéroport, il y avait tous les jets qui étaient à l'aéroport. Il y avait quasiment un embouteillage de jets à l'aéroport. Et je pense qu'en fait, c'est en gros, tous les parieurs, tous les mecs qui sont dans le truc vont plutôt faire ça à Las Vegas... que au Brésil, parce que forcément tu peux pas être présent sur place, il y a pas toutes les animations qu'il va y avoir aussi.
Ah donc c'est une histoire de gros parieurs plutôt que de tout un chacun.
Ah oui, c'est ça. Tous les événements. Tu sais, genre que ce soit par exemple les after parties aussi que fait qu'organise l'UFC ou les combattants après les événements, ça se fait beaucoup plus aux États-Unis que
donc c'est surtout tout le décorum qui fait vivre un peu ville et qui fait que pour l'UFC Vegas,
aussi, c'est ça.
Ouais, et l'UFC c'est d'accord, ouais. Donc c'est les paris, mais c'est surtout que du coup c'est un événement, une espèce de village événement, le temps qu'il y a l'UFC c'est qui ça. Est là-bas, qui fait que ça dope toute l'économie locale et celle de, enfin les affaires du CEO. Okay.
Ouais. Ouais, et puis toute la culture qu'il y a autour de ces... parce que même quand il y a les événements au Madison Square Garden, c'est un peu moins, enfin c'est très, on va dire pour les athlètes c'est très prestigieux et l'organisation aussi, mais tu vois que ce soit en termes de taxes. En termes de taxes, les gars sont taxés de malade quand ils sont à New York. Enfin, il y a tous les à côté qui font que c'est moins intéressant. Conor, quand il combat et que c'est à Las Vegas, au niveau du Proper 12, il explose tout. Je pense qu'à New York, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a moins ce côté. Bon, on va mettre ça en avant, on va mettre ça dans les casinos. Enfin, tout le monde gagne un petit peu moins quand c'est en dehors de Las Vegas. Et je pense aussi, ça aussi, c'est un dernier point, que ce soit fuseau horaire ou pas. Et c'est vrai que vous allez sûrement le voir là quand il y aura l'UFC à Paris. Quand l'événement est dans la ville, tout le monde est plus investi que, par exemple, quand il y a l'UFC London, où en soi, c'est à 1h30 en Eurostar. Mais on n'a pas l'impression d'être vraiment dans le truc. Alors que quand il y a c'est à côté, que ce soit les bars, parce que l'UFC aussi, c'est ça qui est important. Je ne sais plus quel événement il y avait, mais c'est... En gros, l'UFC a énormément augmenté aussi ses revenus en termes de pay-per-view par les bars.
Ouais,
on avait lu un truc là-dessus.
Ouais, c'est vrai.
De droit dans les bars. Et donc ça aussi, je pense que quand tu as le truc qui est aux États-Unis ou même à Las Vegas, les gens forcément vont dans les bars, vont consommer plus, vont peut-être se dire, ce soir, je vais peut-être jouer un petit peu... Enfin, tout un truc qui fait que c'est plus propice à faire ça à Las Vegas plutôt que si c'est au
Tandis
Brésil.
Tandis qu'au Brésil, c'est sur les chaînes nationales, c'est ça ? C'est pas du pay-per-view ?
Je crois que c'est pas du pay-per-view. Et puis même, bah, forcément, à mon avis, tout ce qui est les jeux DraftKings et tout, tu le fais un petit peu
ouais,
moins.
Ouais, ouais, bah ouais, bah ouais. Puis même les droits, les fees pour les bars, c'est peut-être moins important, effectivement, si c'est à Rio ou un truc comme ça. Non, c'est vrai, c'est intéressant.
Mais ça, ouais, c'était, on avait eu un truc comme... Enfin, en gros, aujourd'hui, le business UFC avec les bars, avec les cinémas, ça augmente vraiment... Ils sont partout, ils sont très très chauds.
Ils sont trop forts.
Big Rusty, on a terminé avec cette parenthèse UFC 276. On voulait peut-être ajouter un truc sur Volkanovski pour boucler la boucle UFC 276, sa blessure.
Pour la boucler, ouais, simplement sur le fait que
pour
c'est
peut-être
boucler,
le pouce. Je la boucler.
Ouais, t'inquiète pas que je la boucle, mon pote. Mais c'est, en fait, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai été regarder ça juste avant parce qu'en fait, je me suis dit, ben, parce que c'est l'information qui est donc qu'il s'est pété le pouce en fait au deuxième round de son combat contre Max Holloway Volkanovski, ce qui est hallucinant quand on sait la performance qu'était ce combat. Après, j'aurais bien aimé savoir de quelle main en fait. Soit c'est moi qui ai lu trop vite parce qu'en fait j'ai re-regardé ça juste avant en mode putain mais attends c'est quelle main juste avant le podcast là j'ai pas trouvé mais ce serait intéressant de voir quelle main pour savoir parce que même si tu jabs pas pouce en avant mais frapper quand même si c'est ton pouce qui est touché frapper de façon répétée avec ta main qui jab si t'as le pouce pété ça doit être vraiment oui il y a l'adrénaline et tout tu vois mais ça doit rajouter quand même une douleur qui fait que putain si en plus c'est sa main avant qui a jabé All Night qui était pété vraiment c'est fou. De toute façon c'est fou mais ce sera encore plus fou donc j'aimerais bien savoir
Et donc opéré 12 semaines d'absence pour Volkanovski clairement rien de d'alarmant puisque 12 semaines je l'imaginais pas moi combattre avant 3 mois de toute façon parce que soit en featherweight ou en lightweight bah il y a des petites affaires à régler.
Ouais, voilà, de toute façon, comme là, pour le coup, il a fini le jeu en featherweight. Bon, bah, c'est, voilà, là, si je le vois pas avant 6 mois, ça me choquerait pas. Juste, un, soit que ça se décante en featherweight, deux, soit qu'il prépare sa montée en lightweight. Dans tous les cas, là, il a bien mérité du repos.
Et c'est la seule chose que j'espère, moi, c'est vraiment pour le retour de Volkanovski, son prochain combat, je veux que ce soit un gros truc.
Ouais.
Peu importe, mais je veux que ce soit un gros truc et que tout le monde se disent, je pense pas que ça va faire des gros scores en pay-per-view, mais que ce soit vraiment un événement où on soit, ok, là c'est l'histoire qui va pouvoir se jouer, donc quand je dis ça, c'est forcément title shot, c'est les lightweight. Big Rusty, on a terminé ?
Ouais.
Et bah formidable, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out my sweet protein, vous l'avez vu, nous portions exactement le même t-shirt avec Big Rusty aujourd'hui.
Même pas fait exprès.
Voilà, c'est vrai, même pas fait exprès, il y a les soldes en ce moment sur tout my protein, vous avez un pourcentage supplémentaire avec le code la sueur. À très très vite pour nouvelles aventures. Et puis là, c'est notre freezer, le banger absolu d'Onae. Onae.fr sur nos savons. Vous allez voir un effet menthol garanti. Et puis merci à vous.
Loin, ça. Oui. Ça fait vraiment, vraiment super froid. Quoi.
Et merci à vous d'avoir fait du freezer un succès. Et puis également du Durden. On en a un autre qui va bientôt être sold out. Donc merci à vous. See ya.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.